Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition, Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge ne sont pas des anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur.
Alléluia.
Qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.
Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller » en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve. Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi,
me pardonnerez d'avoir mis un peu trop d'encens sur les braises et du coup je vois à travers une nuée. Mais vous savez que la nuée, cette espèce de nuage, si vous voulez, qu'il y a au-dessus de nous, est dans la Bible un signe de la présence de Dieu. Donc c'est aussi la présence de Dieu que je salue par ces mots, parmi vous, parmi nous. Voilà, Dieu est présent parmi nous. Jésus d'ailleurs nous l'a dit aussi à son propos, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux et bien avant que nous consacrions les espèces, c'est-à-dire le pain et le vin. Il est déjà présent déjà par sa parole. C'est lui qui se donne à nous par cette parole. Alors nous avons entendu ce récit de la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance. C'est le dernier mystère en quelque sorte qui est lié à Noël. La crèche qui est encore présente nous rappelle ce temps, mais bientôt elle disparaîtra pour que nous soyons pleinement dans ce temps ordinaire où nous suivons le Christ, nous tâchons de suivre le Christ. Voilà. Alors dans le récit de la présentation de Jésus au temple, Saint Luc, qui est donc l'auteur de cet événement, de ce récit plutôt, combine deux traditions, vous l'avez entendu. La première, c'est le rachat des premiers-nés. Chaque enfant ou chaque premier enfant qui ouvrait le sein maternel était racheté au Seigneur. C'est une manière de dire, si vous voulez, que la vie appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Bien sûr, la vie vient aussi de l'union, entre un homme et une femme, mais fondamentalement, on reconnaît que la vie vient de Dieu. Même cette union ne produit pas toujours son fruit. C'est toujours une grâce, un miracle, vous voyez, que l'on veut reconnaître à travers cela. Et le premier-né, il s'appelle ainsi, qu'il soit d'ailleurs l'aîné d'une fratrie ou même le fils unique, voilà, ou un fils unique. Voilà. C'est toujours le premier-né, c'est un statut qui lui est donné. Voilà. Donc il y a un rachat qui se concrétise en particulier par un sacrifice. On reçoit la vie de Dieu et d'une certaine manière, on lui rend cette vie. Alors on ne rend pas la vie de l'enfant, on garde l'enfant avec soi, mais c'est un animal que l'on offre. On ne rend pas d'ailleurs la vie de l'enfant, à la différence des civilisations environnantes. C'est une marque d'Israël, c'est une caractéristique d'Israël. Ici, on ne fait pas de sacrifice d'enfant. Voilà. La vie est trop précieuse, la vie humaine est précieuse. L'homme et la femme sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui d'une certaine manière, se laisse voir à travers toute vie, et en particulier à travers les vies naissantes. Donc on offre un sacrifice. Un sacrifice, c'est un animal, à la mesure de ses moyens. Vous avez entendu que pour Joseph et Marie, c'est un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Autrement dit, ils avaient les moyens modestes. Ça, c'est le premier événement, le rachat des premiers-nés, mais vous aviez aussi la purification de la mère. Pourquoi la purification ? Ben, tout simplement parce que quand l'enfant naît, il y a du sang qui s'écoule, du sang qui est perdu. Et le sang est dans la Bible considéré comme le signe de la vie, comme la vie même que donne Dieu. Et d'une certaine manière, même si ce n'est pas volontaire, voilà, on se purifie de cette perte de sang. C'est toujours le même mystère, vous voyez, reconnaître que la vie vient de Dieu, ultimement qu'elle vient de lui et qu'elle est une manifestation de lui dans tout homme ou toute femme, quel que soit son âge. Nous avons entendu que Siméon et Anne ne sont pas des jeunes gens. Alors, on parle de Anne qui a 84 ans et on dit que c'est une très vieille femme. Aujourd'hui, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 120, 130 et davantage, mais à l'époque, c'était quand même une limite qu'on avait du mal à passer. Un psaume dit ainsi, 70, on fait le compte, 80, c'est un exploit. Elle a 84 ans, donc vous voyez qu'elle est allée encore plus loin que l'exploit, vous voyez, que le psaume annonce. Voilà, aujourd'hui, on va bien plus loin. Bien sûr, toute vie humaine, toute vie humaine, celle de Siméon, d'Anne, de tous ceux qui sont ces personnes âgées qui ont grandi ou qui ont... voyez, qui vivent dans le Seigneur, voilà, expriment Dieu, mais a fortiori la vie naissante, parce que nous voyons la vie, voyez, jaillir. Nous voyons ce miracle de la vie à travers l'enfant. Voilà, un enfant, c'est toujours le miracle de la vie, et c'est ce que l'on veut souligner à travers ces deux événements, le rachat du premier-né et la purification de la mère, et ce que combine Luc dans cette présentation au temple. Alors, vous avez remarqué d'ailleurs que, à propos de Joseph et de Marie, on insiste beaucoup sur leur rapport à la loi. Ils font ça, vous voyez, en observance de la loi, de la fidélité. Voilà, s'ils sont de bons juifs pratiquants, qui veulent ainsi signifier, si vous voulez, que toute la vie doit être remise sous le regard de Dieu. Et que la loi, d'une certaine manière, à travers la multiplicité de ses commandements, vous voyez, donne l'occasion précisément de remettre cette vie sous le regard de Dieu. Jésus va leur être soumis, il leur est d'ailleurs déjà soumis, mais vous l'avez entendu à la fin de l'évangile, on parle de sa croissance, en sagesse, en intelligence, en grâce. Voilà, Jésus va leur être soumis, apprenant de ses parents, vous voyez, précisément, à remettre toute sa vie sous le regard de Dieu. C'est un grand mystère, hein ? Jésus est Dieu, né de Dieu, nous le disons dans le credo. Et pourtant, il a choisi une existence comme la nôtre. Ça veut dire qu'il a appris. Il a appris de ses parents à marcher, il a appris de ses parents à parler, il a appris de ses parents à être propre, il a appris à ses parents d'être poli, voilà. Ce sont des choses qui sont étonnantes. Il a appris, lui qui est le Verbe de Dieu, de ses parents à parler. Il a appris à lire et à comprendre la parole de Dieu. Voilà. C'est un grand mystère, vous voyez, que Jésus, en se soumettant ainsi à Joseph et Marie, vous voyez, alors qu'il est le Verbe de Dieu, le Dieu lui-même, voilà, c'est un grand mystère, et qu'il se soumette ainsi à la loi, apprenant de ses parents précisément à faire de toute son existence une vie sous le regard de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, je souligne, vous l'avez entendu, c'est assez rare dans l'Évangile, c'est pour ça que je le souligne, on parle du père et de la mère de l'enfant. Alors nous sommes habitués à parler de Marie comme de la mère de l'enfant, mais souvent dans l'Évangile, vous voyez, on parle de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus. Voilà. Pour bien signifier, si vous voulez, qu'il y a quand même un petit décalage, que c'est vraiment l'Esprit Saint qui a engendré en Marie cet enfant, qu'il est né de Dieu. Voilà. Néanmoins, vous voyez, dans cet Évangile, on entend Joseph, le père de l'enfant. Voilà. Certes, il n'est pas à l'origine, si vous voulez, de la conception de Jésus, mais il est tout de même celui qui va prendre en charge toute son éducation, et en particulier l'apprentissage de la loi. Et c'est ainsi précisément que se définit la paternité, plus encore, vous voyez, que dans le fait d'être à l'origine, vous voyez, d'une vie. Alors un événement, cette présentation au temple, va être bouleversée par un événement qui est la rencontre avec Siméon. Siméon, on l'a entendu, on nous l'a présenté comme un homme juste et pieux qui attend la consolation d'Israël. Il nous a dit que l'Esprit repose sur lui, Esprit qui lui a fait savoir qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie de Dieu, Esprit qui le conduit au temple au moment où les parents de Jésus arrivent au temple, Esprit aussi qui lui permet de reconnaître en cet enfant qui n'est pas différent des autres. Hein. Il n'avait pas une étoile sur le front ou une marque sur le front qui indiquait que c'était lui le Messie. Ses parents n'étaient pas là avec une pancarte pour indiquer que c'était le Fils de Dieu. Il va reconnaître en cet enfant qui ressemble à tous les autres, il va reconnaître celui qu'il attend, la consolation d'Israël, le Messie du Seigneur, le Sauveur. Voilà. Alors c'est intéressant, vous voyez, parce que l'Évangile a beaucoup insisté sur les parents de Jésus, Joseph et Marie, comme soumis à la loi. Et on va avoir deux vieilles personnes, deux vieillards, tels qu'ils sont dits dans l'Évangile, Siméon et Anne, qui au contraire qui vivent dans l'Esprit. Alors il n'y a pas d'opposition entre les deux, hein, entre l'Esprit et la loi. Mais c'est une manière de dire, vous voyez, qu'avec l'arrivée de Jésus, et même en particulier avec cette présentation de Jésus au Temple, eh bien, un changement d'air, hein, une nouveauté qui se fait. Hein, l'Esprit est désormais présent. L'Esprit, vous savez, n'est pas différent de la loi. Il permet que la loi soit intérieure, qu'elle soit inscrite dans le cœur. Que désormais, ce ne soit pas, voyez, une loi qui s'impose à moi, mais que ce soit vraiment, voyez, sous l'impulsion de mon cœur, hein, ce dans lequel, je dirais, les paroles de Dieu se font entendre, eh bien, sous l'impulsion de mon cœur que désormais je me détermine. À noter d'ailleurs que, comme je le soulignais, on précise que Siméon, c'était un homme juste et religieux. Hein, l'Esprit, bien sûr, parle à tout le monde. Il n'y aurait pas de catéchumène dans les églises si l'Esprit ne parlait pas en dehors de l'Église. C'est lui qui fait venir précisément des gens dans une église et qui fait les fait s'interroger et s'approcher, en particulier demander un jour, oser demander un jour à un chrétien, avant que ce soit un prêtre. Souvent un prêtre, on le voit de très loin, et on est un peu inquiet de lui adresser la parole quand on ne connaît pas l'Église, mais de demander au moins à des chrétiens comment on fait, voyez, pour participer à cette assemblée qui me semble si fraternelle et dans laquelle je veux être membre. C'est l'Esprit qui parle en dehors de l'Église. Néanmoins, voyez, c'est intéressant, c'est un homme juste et religieux. Ça veut dire qu'il y a des dispositions particulières où l'Esprit qui peut parler en dehors de l'Église, eh bien, se fait davantage entendre, voilà, qui dispose nos oreilles, voyez, entendre les paroles de l'Esprit. Cette intervention de Siméon, elle s'inscrit bien, voyez, dans le début de l'Évangile de Luc, où nous avons entendu au départ, voyez, les anges, hein, nous étions à Noël, nous entendions les anges s'adresser aux bergers pour leur faire connaître ce qui s'était passé à Nazareth. Eux aussi sont à Bethléem, eux aussi sont arrivés à Bethléem et ils ont vu un enfant ordinaire, mais avec cette révélation des anges, précisément, ils ont confessé que c'était lui, hein, le Sauveur du monde. Voilà. Et puis nous avons entendu aussi parler, alors pas dans l'Évangile de Luc, et dans l'évangile de Matthieu, de ces mages qui suivent une étoile. Voilà. Dieu parle, hein, ne cesse de parler, ne cesse de s'adresser au monde, précisément pour lui révéler le mystère de sa présence. Nous ne sommes pas propriétaires de cette parole, et c'est important, vous voyez, d'ouvrir son regard comme Siméon nous y invite. Alors, dans cette présentation de Jésus au Temple, il va y avoir un événement original, cette rencontre, et en particulier qui se caractérise, vous voyez, par ce geste de Siméon qui reçoit l'enfant dans ses propres bras, le présente au Seigneur, donc, et bénit Dieu. Et en bénissant, qui va annoncer que cet enfant, il va être la lumière pour Israël et la gloire pour toutes les nations. Autrement dit, que ce qui est en jeu dans cette présentation, ce n'est pas, je dirais, un événement pour ces quelques personnes qui sont là rassemblées. Joseph, Marie, l'enfant et Siméon, et un peu plus loin, Anne qui va venir. C'est non seulement tout Jérusalem, mais c'est la totalité du monde entier. On parle de lumière pour les nations, gloire d'Israël, mais lumière pour les nations. Ce qui est en jeu là-dedans, c'est une lumière pour les nations. Il y a quelque chose de très étonnant et qui étonne les parents. Et Siméon va s'expliquer, il va signifier en quelque sorte que ce qu'il est en train de faire, vous voyez, recevoir l'enfant, le présenter en Dieu et bénir Dieu, c'est une prophétie. Une prophétie de quoi? Ben, vous l'avez entendu dans les propos qu'il adresse à la Vierge, ils sont un petit peu, vous voyez, étonnants, ils peuvent inquiéter, c'est clair, hein, cet enfant sera un signe de contradiction, et toi-même, un glaive te transpercera le cœur. Ce qui est en jeu, vous voyez, dans cette présentation, c'est la passion de Jésus. Car si Jésus est venu dans notre humanité, c'est bien évidemment pour partager notre vie, pour se montrer le plus proche de nous. Et c'est aussi en particulier pour nous délivrer, ou délivrer toute l'humanité, juifs et nations, vous voyez, de ce qui pèse sur eux. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises, aussi bien dans la première lecture. Alors c'était surtout du péché des prêtres dont on parlait. Hein. La purification des fils de Lévi. Les fils de Lévi, ce sont des prêtres. Voilà. Mais la purification aussi de tous, nous l'avons entendu dans l'Épître aux Hébreux, hein, il a en partage notre humanité, et il vient précisément pour offrir ce qu'il a reçu de nous, notre humanité, pour nous délivrer de ce qui nous pèse, ce qui nous met sous le pouvoir du diable, sous le pouvoir de Satan. Le diable, le diviseur, Satan, l'accusateur. L'Esprit Saint est précisément celui qui nous unifie, qui fait la communion entre nous. Et l'Esprit Saint, on l'appelle aussi le défenseur par rapport à Satan qui est l'accusateur, il prend notre défense, il valorise ce qu'il y a de meilleur en nous, il fait grandir ce qu'il y a de meilleur en nous. Et ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est précisément notre identité de fils et de fille de Dieu. Alors, c'est une prophétie de la passion, prophétie de la rédemption hein, qui est en jeu dans cette présentation au Temple. Et finalement, ce que Siméon a fait ce jour-là, quand il a rencontré Joseph et Marie, c'est ce même geste que nous reproduisons à l'Eucharistie. Alors, ce n'est pas tout à fait le geste de Siméon, c'est devenu le geste de Jésus, mais nous recevons Jésus et nous le présentons à Dieu et nous bénissons Dieu pour sa venue parmi nous. Voilà. Nous nous rappelons, vous voyez, cette présentation de Jésus au Temple. Nous nous rappelons d'une certaine manière, vous voyez, sa consécration à Dieu pour la mission qui est la sienne. Et ce faisant, nous nous rappelons aussi notre identité. Nous aussi, nous sommes consacrés. Nous avons été baptisés. Nous avons été baptisés dans le Christ, nous sommes morts avec lui pour pouvoir ressusciter avec lui. Avec lui, nous sommes devenus des chrétiens. Il est le Christ, nous sommes des chrétiens. Avec lui, nous sommes rois, prêtres, prophètes. Voilà. Et un prêtre, qu'est-ce que c'est? Un prêtre, c'est quelqu'un qui s'approche de Dieu. Un prêtre, c'est quelqu'un qui offre à Dieu. Et même, un prêtre, c'est quelqu'un qui s'offre à Dieu. Nous célébrons l'Eucharistie. Vous entendrez les prêtres dire « En votre nom à tous, en notre nom à tous ». Ceci est mon corps. C'est bien sûr le corps de Jésus dont il est question. Mais c'est aussi toute nos humanités, toute notre humanité, vous voyez, que nous présentons à Dieu pour qu'il la reçoive. Nous sommes consacrés à lui. Vous savez que le 2 février a été choisi pour être aussi la fête des consacrés ou de la vie consacrée. Voilà. Nous sommes tous consacrés par le baptême et les consacrés qui le sont par appel de Dieu, pour nous rappeler en particulier que nous marchons vers le royaume de Dieu, nous rappelle aussi la manière dont nous pouvons entrer dans le royaume, c'est-à-dire par un certain détachement par rapport à toute forme de possession, que ce soit pécunier, de l'argent, que ce soit la possession que l'on peut exercer sur d'autres personnes ou sur nous-mêmes, que ce soit la possession au sens du pouvoir, de la chair ou du corps, si vous voulez. Les consacrés nous rappellent, vous voyez, cela, ils se sont engagés pour certains par des vœux, de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Alors certes, nous ne sommes pas consacrés en ce sens
Et pourtant, ces conseils évangéliques s'appliquent à nous tous aussi. Si vous ne voulez pas parler de détachement, vous pouvez parler de liberté, la liberté des enfants de Dieu. La présentation de Jésus au temple nous rappelle que nous appartenons, Jésus appartient à son Père, que nous appartenons à Dieu, que nous appartenons au Christ, et que nous avons à vivre une vie semblable à celle du Christ, c'est-à-dire une vie de liberté, une vie qui est sous la conduite de l'Esprit-Saint, comme Siméon, comme Anne, comme tous ceux qui désormais, à la suite du Christ, voyez, entrent dans une communion particulière, une communion singulière, avec le consacré d'entre ses frères, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà, demande au Seigneur dans cette Eucharistie, non seulement réjouissons-nous, voyez, de cette présentation de Jésus au Temple, de ce passage de la loi à l'Esprit, reconnaissons cet Esprit-Saint dont nous avons hérité, voilà. Rappelons-nous notre baptême par lequel l'Esprit nous a été donné. Il est bien sûr donné en particulier dans la confirmation, en plénitude, mais dès le baptême, il est présent parmi nous. C'est lui qui fait de nous des rois, des prophètes et des prêtres. Et en tant que prêtres, voyez, avec le Christ, nous nous offrons, précisément pour que cette lumière qu'est le Christ, cette lumière pour les nations, cette gloire pour Israël, et bien cette lumière et cette gloire puissent se développer dans notre monde qui en a bien besoin.